Bonjour tout le monde. Je veux commencer encore en remerciant les Québécois de suivre les consignes. C'est important, si on veut gagner la bataille, de suivre les consignes. On me dit qu'on voit de plus en plus que les gens là, prennent une distance d'un ou deux mètres avec les autres personnes. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on doit faire. Et si on fait ça, ben ça va bien aller. Donc, je veux faire le bilan la dernière journée. Malheureusement, on a deux décès qui s'ajoutent, donc on passe à 8 décès au total. Et je veux offrir mes sincères condoléances à la famille pour proches des deux victimes. On a maintenant 1629 cas confirmés. C'est une augmentation de 290. On a 106 personnes infectées qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 28. On a 43 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 8. Bon, les personnes aux soins intensifs sont incluses dans les données pour les personnes hospitalisées. Ce qui est important de dire, c'est qu'actuellement, le Québec est un des endroits au monde où on a fait le plus de tests, toute proportion gardée, donc par 100 000 habitants. On est maintenant rendu à, on a fait 36 000 tests. Il y en a 31 800 qui ont été négatifs, 1 600 positifs, puis il en reste 2 600 à obtenir les résultats. Je veux venir sur un point important dont il a été question hier, puis beaucoup dans les médias, la protection du personnel de la santé. Bon, d'abord, je vais être encore très clair, là, il n'est pas question de faire quelques compromis que ce soit sur les précautions à prendre pour protéger le personnel de la santé. Mais tous les pays dans le monde actuellement surveillent l'utilisation des fameux masques parce que il y a des inquiétudes partout que si la montée se poursuit au cours des prochaines semaines, on va être serré dans les masques. Donc, c'est très important. Là, on travaille très fort avec le gouvernement fédéral, avec des fournisseurs un peu de partout dans le monde. Mais il faut une utilisation judicieuse des masques. Là. Donc, d'un côté, on veut protéger, mais utiliser des masques quand c'est pas nécessaire, ben ça aide pas personne, là, parce que oui, tous les pays, pas juste nous autres, tous les pays essayent de faire attention sur la consommation des masques. Maintenant, j'ai avec moi aujourd'hui le ministre de l'Emploi, du Travail, Solidarité sociale, parce qu'on a vraiment un enjeu, là, puis j'en suis très conscient, beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi, beaucoup de monde qui se retrouvent dans des problèmes financiers. Sans expliquer le programme qui est annoncé hier par M. Trudeau et le gouvernement fédéral, ce que je comprends, là, c'est que tout le monde qui a perdu son emploi va recevoir 2 000 par mois, même un travailleur autonome, même un propriétaire d'une petite entreprise qui a fermé ses portes. Tout le monde là, va recevoir un chèque donc du gouvernement fédéral de 2 000 par mois. Bon, je comprends par contre là, que la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant le chèque de 2 000 Puis là, j'entends des histoires là, qui sont inacceptables au Québec, que des gens n'auraient pas l'argent pour payer la nourriture pour leur famille. Là. Donc, on va mettre des mesures en place pour d'abord envoyer, on a une trentaine de banques alimentaires, il y en a dans toutes les régions du Québec. On a déjà commencé à envoyer de l'argent, puis on va envoyer tout l'argent nécessaire pour répondre à la demande. Il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un au Québec qui n'ait pas quelque chose à manger. Donc, ça, c'est très, très clair. Et, bon, évidemment, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de gens dans les banques alimentaires. Puis là, je veux dire aux Québécois, là, faut pas être gêné d'aller dans une banque alimentaire. C'est pas votre faute si vous avez perdu votre emploi dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Donc, il n'y a pas de gêne à aller dans les banques alimentaires. Bon, on va s'assurer qu'il y a assez d'argent pour acheter toute la nourriture qui est nécessaire. évidemment, vous me voyez venir, ça va nous prendre plus de bénévoles. Donc, tantôt, Jean va vous expliquer, on a mis en place un portail, sur Internet, un portail web, où d'un côté, les organismes qui ont besoin d'aide, bon, il y a des banques alimentaires, mais il y a aussi, bon, toutes sortes de problèmes de santé mentale, puis dans plusieurs domaines, Jean va vous en parler tantôt. Donc, tous les organismes qui manquent de bénévoles vont pouvoir s'inscrire sur le portail et tous les Québécois qui veulent faire du bénévolat, pardon, qui peuvent faire du bénévolat, bien, aujourd'hui, c'est mon appel du jour. S'il vous plaît, tous les Québécois là, qui n'ont pas de symptômes, qui ont moins que 70 ans, qui ont du temps disponible, qui n'ont pas de jeunes enfants ou peu importe, qui ont perdu leur travail, bien, s'il vous plaît, allez faire du bénévolat, c'est important. Puis, bien, mon merci du jour, c'est justement aux bénévoles. Donc, je veux dire, il y en a déjà beaucoup qui font du bénévolat. Je pense, entre autres, puis je veux dire un mot spécial, ceux qui travaillent dans les municipalités, que ce soit maire, mairesse, les élus, les employés, il y en a beaucoup, là, on donne des beaux exemples de gens qui vont aider dans les banques alimentaires, dans les différents organismes. Donc, merci du fond du cœur à tous les bénévoles au Québec. Par contre, puis avant que le docteur Ouda le dise, c'est important que les bénévoles qui vont dans les organismes respectent les consignes. Donc, ce que ça veut dire concrètement, je pense aux banques alimentaires, il peut y avoir beaucoup de gens, donc il va falloir contrôler pour pas qu'il y ait des rassemblements, donc malheureusement d'attendre en ligne avec une distance d'un à deux mètres. Évidemment, ceux qui servent, se laver les mains régulièrement, très, très important. Mais bon, la grande consigne, là, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne des rassemblements, là, les organismes communautaires puis les centres là, pour recevoir toutes sortes de denrées. Donc, je termine en vous disant, je pense que ce n'est pas exagéré de dire qu'on vit actuellement la plus grande bataille de notre vie collective au Québec. On est capable, on va gagner cette bataille, mais pour gagner cette bataille, il faut suivre le plan de bataille. Et donc, je compte sur vous pour le suivre, ce plan, suivre nos consignes. Merci tout le monde.
Voulez-vous dire quelques mots en anglais?
So, we have to stop this virus.
Alors, c'était François Legault. Écoutez, c'est quelque chose. On est en train de livrer la plus grande bataille de notre vie collective et on va gagner la bataille en suivant notre plan de bataille. Hein, Julie Christine, je trouve ça bien ramassé.
Oui, à chaque jour, il y a une demande d'ailleurs.
Hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis on sent qu'on a un général aux commandes.
Tout à fait.
Alors, dans un instant, donc, le ministre Jean Boulay va nous parler de ce site web où les personnes vont pouvoir s'inscrire, là, celles qui veulent donner du temps dans des banques alimentaires, par exemple.
Oui, les organismes qui ont besoin de bénévoles et les bénévoles qui ont du temps. Oui. D'ailleurs, on demande, c'est la demande du premier ministre aujourd'hui, là, on demande aux gens d'aller faire du bénévolat dans les banques alimentaires. Il a dit aussi aux gens qui ont de la difficulté, là, c'est pas de votre faute si vous avez perdu votre argent, ne soyez pas gênés d'aller dans les banques alimentaires. Et si vous avez du temps, pas de symptômes, moins de 70 ans,
Portez-vous volontaire.
Portez-vous volontaire.
Oui, c'est ça.
En respectant les consignes, évidemment.
Bien sûr. Puis je dois vous dire, là, on se revire de bord. Dans la troisième heure, je vais vous demander de m'appeler ceux qui avaient le goût de vous impliquer, puis on va avoir des représentants des banques alimentaires. On retourne à François Legault.
Bonjour à tout le monde. Évidemment, on le sait, on le répète, on vit une crise sanitaire sans précédent. Et au Québec, il y a un réseau d'organismes communautaires qui est assez bien développé. Mais dans le contexte dans lequel on vit, il y a des problématiques humaines qui sont devenues encore plus importantes. On réfère à la santé mentale, on réfère aux personnes en situation de handicap. On réfère aux personnes aînées, on réfère aux itinérants aussi. Les organismes communautaires y comptent, ils ont besoin de bénévoles pour assurer une qualité de vie et pour maintenir le filet social au Québec à son niveau actuel. Il y a un besoin criant de bénévoles, il y a des personnes qui deviennent disponibles en raison de la conjoncture économique, il y a des personnes en âgés en haut de 70 ans qui faisaient du bénévolat. Partout, on me dit, dans toutes les régions du Québec, il y a un besoin immense. Et nous faisons aujourd'hui appel à la solidarité des Québécois dans ce contexte-là pour répondre aux besoins des organismes communautaires. Et les bénévoles intéressés, autant que les organismes communautaires, pourront se rencontrer sur ce portail informatique-là qu'on a développé en partenariat avec la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Les organismes communautaires pourront y accéder, jebénévole.ca. Donc, les personnes qui veulent faire du bénévolat vont pouvoir accéder à ce site-là. Les organismes communautaires auront dit, moi, la catégorie de services que je couvre est la suivante, par ville, par région. Le bénévole ou la personne intéressée à faire du bénévolat pourra accéder à ce site-là, exprimer son intérêt. On va constituer une banque de bénévoles partout au Québec pour répondre à nos popotes roulantes, pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Ça peut être les Moissons, Mauricie, Lanaudière et Estrie de ce monde. Ils ont des banques alimentaires, ils ont besoin de bénévoles pour monter des paniers alimentaires dans tous les secteurs d'activité humaine. Il y aura donc, dans le contexte actuel, un forum pour permettre un bon jumelage entre ceux qui veulent aider, ceux qui veulent contribuer, ceux qui se sentent solidaires et les organismes communautaires pour répondre à leurs besoins. Donc, je veux remercier, bien sûr, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec qui va travailler en collaboration avec 110 centres d'action bénévole qui sont répartis sur tout le territoire québécois, qui vont accompagner les organismes communautaires, qui vont s'assurer, bien sûr, de respecter, comme le disait M. le Premier ministre, les consignes sanitaires, extrêmement importants. Ils ont l'expertise, les bénévoles vont s'engager à respecter ces consignes-là et donc ils vont être en mesure de répondre dans le respect de ce que nous devons faire dans la conjoncture actuelle. Donc, merci à la Fédération, merci aux organismes communautaires de faire du Québec une société progressiste, soucieuse des personnes démunies, vulnérables. On s'occupe de ces personnes-là d'abord et avant tout. La conjoncture actuelle nous l'impose. Je remercie aussi, bien sûr, les centres d'action bénévole et tous ceux et celles qui vont contribuer en faisant ce bénévolat qui est si essentiel à notre société québécoise. Merci tout le monde.
Merci à vous pour les questions. On va débuter aujourd'hui avec Mathieu Dion, Radio-Canada.
Bonjour, M. Legault. On réalise avec un texte de la presse canadienne des collègues tantôt que les préposés aux bénéficiaires peuvent se retrouver à être mieux rémunérés en prenant l'aide fédérale qu'en travaillant, donc en restant à la maison. Craignez-vous des effets pervers avec cette aide fédérale-là? Et est-ce que ça rend caduque le 573 $ par semaine qui était destiné aux travailleurs autonomes?
Bon, d'abord, ce qui est important de dire, c'est que l'aide du gouvernement fédéral est temporaire. Donc, les gens ne vont pas recevoir 2000 $ par mois à vie, là. C'est temporaire pour 4 mois. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, on a l'intention depuis longtemps d'augmenter la rémunération des préposés aux bénéficiaires. Ça fait partie des raisons pourquoi on a des discussions avec les syndicats actuellement. Donc, beaucoup de scénarios qui sont envisagés dans les discussions avec les syndicats. On va essayer d'être juste, mais effectivement, c'était vrai avant, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il faut augmenter le salaire des bénévoles de plus que l'ensemble des employés du gouvernement.
Et sur le 573 $
Ah, bien, le 573 $ s'il est nécessaire. Moi, je veux dire une chose, là. Le 2000 $ que le gouvernement fédéral annonce, ça va s'appliquer à tout le monde. Personne qui s'isole, une personne qui a perdu son emploi, personne qui était travailleur autonome, personne qui avait un petit commerce puis le commerce a fermé, etc., etc. Si jamais, je veux rassurer les Québécois, si jamais il y a des personnes qui ne sont pas couvertes par le programme fédéral, puis je ne pense pas que c'est le cas, bien, le gouvernement du Québec va intervenir.
Question pour M. Arruda. Il y a eu une entente, semble-t-il, avec la Fédération des interprofessionnels de la santé, avec les infirmières, pour leur offrir des garanties pour ce qui est de la protection. On peut penser aux masques. Là, qui doit porter les masques N95? Qui doit porter des simples masques? Tu sais, il y a les travailleurs sociaux qui veulent porter les masques aussi. Qui doivent les porter, ces masques-là?
Votre question est importante, mais je vais vous dire, dans les faits, les gens qui vont avoir à donner des soins directement, en milieu de soins, là, je veux dire, on n'est pas en transporté, là, le patient est probablement COVID-19, il faut lui faire un prélèvement en particulier, se rapprocher de lui, là. À ce moment-là, selon certaines conditions, tout dépendamment de l'acte qui va être posé, particulièrement quand il va générer des aérosols, les gens vont prendre un N95, vont avoir une visière, etc. Il faut comprendre que nos recommandations sont les mêmes qu'un peu partout dans le monde. Et le masque entraîne énormément de questionnements parce que tout le monde pense qu'en portant un masque, ils sont protégés. Là. Puis l'utilisation du masque elle a différentes utilités. Le masque de procédure, par exemple, va être offert aux gens qui vont se présenter en milieu de soins avec des symptômes pour pas qu'ils contaminent les autres. Quand on est dans... Et là, ce qui se passe, c'est tout dépendamment du type. Les ambulanciers, par exemple, qui vont chercher quelqu'un qui est un N95, qui pourrait avoir à faire une réanimation ou quoi que ce soit, vont avoir l'équipement personnel. Donc, chacune des situations est analysée pour faire la bonne intervention parce qu'on veut ni infecter les infirmières, ni infecter les pompiers, ni les policiers, ni infecter... Donc, selon le niveau de risque et le travail qui va être fait, on va le faire. C'est sûr que dans un hôpital, les unités particulières où il va y avoir du COVID-19 vont peut-être avoir un matériel qui va être différent d'une unité qui n'est pas infectée. Donc, tout ça, là, est actuellement en train de se faire. Comme le dit le premier ministre, partout dans le monde, on a réservé l'usage des masques avec une saine gestion. Vous savez, les masques, habituellement, ça traînait partout dans l'hôpital. Maintenant, on doit s'assurer de le faire. Il y a eu certains enjeux, la ministre McCann a dit, de distribution. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a manqué de matériel, en tout cas à notre connaissance à date, mais il y a du monde qui avait des inquiétudes parce qu'ils voyaient là, ce qu'ils voyaient physiquement, là, était en train de fondre. Il y a de la redistribution qui est faite d'un établissement à l'autre selon le monitoring. Et je tiens à vous dire aussi quelque part, c'est que tout le Québec est en train de faire, comme ailleurs, toutes sortes de demandes et de commandes, là, puis je ne peux pas vous dire exactement, etc. Mais il va y avoir une augmentation très significative des masques. On a même prévu à moyen-long terme en fabriquer au Québec comme tel, mais actuellement, et je comprends ce que les gens rapportent, des gens se disent, mais moi, je ne vois plus de masques. Il y a des gens qui ont volé des masques aussi. On ne peut pas se permettre de voler des masques. Il faut les garder pour les choses les plus critiques. Bon. Donc, de façon générale, puis je l'ai dit, le masque dans la communauté, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de symptômes, c'est pas la chose qui est importante. C'est la distanciation physique. Puis là, je vais me permettre de poser un élément, là. On s'en va, on dit aujourd'hui, on fait appel à la solidarité. Le mot « distanciation sociale » donne l'impression qu'on ne veut plus que les gens aient de relations les uns avec les autres. Il y a le web, il y a parler à quelqu'un à 2 mètres, c'est un élément, les bénévoles. Donc, on devrait parler de distanciation physique, là. C'est pas que les gens se prennent de la distance par rapport à leur famille ou etc. Les gens me donnaient cet élément-là. Donc, je pense que actuellement, là, puis là, je tiens à le dire aussi, un autre élément que je veux absolument profiter pour vous le dire, actuellement, là, on est rendu dans... Le virus est au Québec. Hein? S'il y en a qui pensent qu'il n'est pas au Québec, là, vous n'avez qu'à voir le nombre de cas qu'on démontre puis des gens qui meurent. Mais il n'est pas au Québec de la même façon. En Gaspésie, la circulation n'est pas la même que dans la région de Montréal. La région montréalaise correspond vraiment à un hotspot. On a au Québec le directeur national, mais il y a aussi 18 directeurs de santé publique régionale qui vont regarder la situation de leur propre territoire et pourraient prendre des décisions, par exemple, à qui on teste pas, selon l'épidémiologie locale. Donc, vous allez voir des fois, peut-être que certains genres de patients vont être testés à Montréal, mais ils ne seront pas encore en Gaspésie. C'est normal, on applique, c'est comme on a un patient, on regarde le patient, l'état du traitement, on ne va pas donner une chirurgie pour enlever le poumon au complet quand il y a seulement une petite partie qui est infectée. Donc, il faut comprendre que nous aussi, on fait des diagnostics populationnels. Donc, vous allez voir qu'il est possible qu'entre Laval et Montréal, il y a des différences par rapport aux gens qui passent des tests. C'est en fonction du diagnostic de la population. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai donné beaucoup de... Je me permets de prendre de l'auditoire par rapport à une question. Mais dans les faits, soyez assurés qu'il y a un message qui est très clair. Très, très clair. Nous voulons protéger à la fois les patients et notre personnel de la santé. Et tout dépendamment des risques qui s'y vont évoluer, on adaptera les prescriptions de masque ou pas masque. Mais la chose la plus importante, c'est cette distanciation physique. Et c'est sûr que si, par exemple, un travailleur social rencontre quelqu'un puis qui est à deux mètres de la personne, il peut faire son intervention. En télétravail, il peut faire son intervention. Il n'a pas besoin de masque, mais quelqu'un qui va aller toucher au patient, faire un prélèvement, qui est à l'urgence, c'est une autre modalité. Puis ça, ces situations-là sont suivies par nous, nous, le gouvernement, mais particulièrement par des recommandations d'experts et des recommandations aussi d'experts en santé au travail. On travaille avec la SNES parce qu'ils ont le mandat, les employeurs, de s'assurer de la protection de leurs employés. Et n'oubliez pas encore une chose, le masque, c'est utile en contexte de soins, mais la chose la plus importante, et je vais radoter et radoter, c'est lavez-vous les mains. Même les gants, si vous ne les portez pas, vous les portez, vous ne lavez pas les mains, c'est fini, terminé. Je vais arrêter parce que je vais en irriter quelques-uns, mais je dois répéter parce qu'encore, il y a des gens qui pensent que le masque, c'est la solution.
Merci. Alors, le plus rapidement possible, puisque le temps file, une question de sous-question. Marco Belair-Cérino, Le Devoir.
Oui, bonjour à vous trois. Docteur Arruda, les faits, l'état de situation, il y a deux jours, on a posé la question à la ministre de la Santé, Danielle Metcan, sur le nombre de personnes dans le milieu de la santé qui étaient infectées par la COVID-19. Elle nous a répondu 4. Hier, la directrice régionale de la santé publique de Montréal a dit que 31 professionnels de la santé avaient été infectés. Alors, quel est l'état de situation aujourd'hui? Et a-t-on raison de penser que ce sont les professionnels de la santé qui sont les plus touchés par la COVID-19 ou il y a un autre groupe d'emplois qui l'est?
Bon, regardez actuellement, là, puis c'est clair, il faut aussi voir que là, actuellement, il y en a 46 personnes qui travaillent de la santé qui ont le COVID-19. Je veux juste vous dire une chose, il y a des travailleurs de la santé qui ont voyagé. Donc, ce n'est pas dire que les travailleurs de la santé l'ont acquis en milieu de travail. Il aurait pu l'acquérir d'un voyageur ailleurs, etc. On est en train de faire ces analyses de façon précise, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, je n'ai pas eu d'informations qu'il y a eu des cas de transmission nosocomiale. Les travailleurs de la santé, là, puis c'est pas nécessairement toutes les gens qui ont vu des patients en urgence. Ils se promènent dans une ville. Ils peuvent être infectés, même à Montréal, s'il y a de la transmission locale qui s'installe. Fait que je pense que c'est important, mais c'est à mesure qu'on va avancer, qu'on va obtenir des informations précises sur chacun des cas, qu'on va être capable de démontrer quels sont les profils d'individus. Mais les travailleurs de la santé, ils ne sont pas rien dans l'hôpital, ils vont à la maison, ils peuvent aller à la pharmacie, ils peuvent aller ailleurs. Fait qu'actuellement, c'est encore un grand profil de gens qui viennent de l'extérieur.
Oui, M. Legault, sur la prestation canadienne d'urgence, il y a plusieurs préposés aux bénéficiaires qui ont dit « Pourquoi aller sur la ligne de feu alors que je pourrais rester à la maison en sécurité et toucher 2 000 $ par mois pendant 4 mois? » Il y a aussi des petits salariés, des personnes qui travaillent dans des pharmacies, des épiceries qui se disent la même chose. Est-ce que vous craignez des dommages collatéraux de cette mesure-là du fédéral?
Non. Puis j'ai les deux mêmes réponses que tantôt, c'est-à-dire c'est une aide qui est temporaire pour aider ceux qui ont perdu leur emploi, donc faut voir si ça s'applique. Deuxièmement, on est en train d'avoir des discussions, puis ça fait longtemps qu'on le dit, on veut bonifier les salaires des préposés aux bénéficiaires. Ça a toujours fait partie de nos propositions avec les syndicats. Puis on essaie là, d'avancer de ce côté-là. C'est une des raisons pour qu'on essaie d'accélérer les discussions avec les syndicats.
Maintenant, Geneviève Lajoie, le Journal de Québec.
Bonjour. Je veux revenir sur la question de l'équipement médical. Vous avez dit dans les derniers jours qu'il y avait suffisamment d'équipement médical au Québec pour protéger les employés du réseau de la santé. Vous avez dit tout à l'heure quand même qu'il va falloir utiliser judicieusement les masques qu'on a. Mais on continue d'avoir des courriels, des dizaines et des dizaines par jour de professionnels de la santé, que ce soit des médecins ou des infirmières, qui sont au front dans les hôpitaux du Québec et qui se font dire qu'ils ne peuvent pas porter de masque. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelle directive vous envoyez aux hôpitaux à cet effet-là, qui a le droit ou qui n'a pas le droit? Et pourquoi est-ce que vous liez ça aussi, les équipements médicaux, aux négociations avec le secteur public qui est en cours actuellement? Il y a eu des cas pour les jaquettes, là, puis dernièrement, en lien avec les négociations avec le personnel de la santé, avec les infirmières, par exemple.
Bon, d'abord, les équipements médicaux, les négociations, là, il n'y a rien à voir entre les deux sujets. Maintenant, quand on dit, combien vous avez d'inventaire, pour combien de jours, ça dépend de l'utilisation. Là, ce qu'on voit, c'est qu'à certains endroits, l'utilisation a comme explosé. Puis il y a certains endroits où on utilisait des masques où c'était pas nécessaire. Donc, c'est pour ça, c'est important. Je comprends qu'il y a du personnel qui peut être inquiet, qui en font plus que moins. Sauf que, comme tous les pays dans le monde, il y a un inventaire qui est limité de masques. Et on doit s'assurer de ne pas les surutiliser, parce que si on les surutilise, à un moment donné, il y a effectivement un plus grand risque qu'on va en manquer. Donc, c'est important, les directives qui sont données.
Si vous me permettez, moi, les directives qui nous sont données là, viennent d'avis d'experts du Comité de désinfection nosocomiale du Québec, OK? Qui regardent la situation et qui voient à protéger avant tout le personnel, puis etc. Quand on fait des directives, puis là, on leur a posé plusieurs questions, on a actuellement respecté leurs directives et on pose même des questions à un moment donné. Si on manquerait de masques d'alternatives, mettons qu'on en manque de N95, est-ce qu'on peut les restériliser? Il y a plein de questions qui sont posées. Puis les gens élaborent ces scénarios-là. Mais ce que je veux vous dire, il est peut-être arrivé à un moment donné où ils voyaient la réserve à un endroit qui diminuait, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu à intervenir auprès d'un cas. Je ne parle pas de gens qui pensent qu'ils vont intervenir demain ou qui sont dans une unité où ils pensent qu'ils risquent d'en avoir, qui n'a pas eu accès au matériel. Si c'est une situation qui est arrivée, là, j'aimerais ça qu'on me la rapporte, premièrement. Puis, et donc, quelque part, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est sûr qu'on fait une gestion serrée actuellement. Parce que je peux vous dire, si on ne ferait pas une gestion serrée, pour toutes sortes de raisons, même des gens à l'extérieur pourraient rentrer, prendre des masques, puis là, on aurait des problèmes de bris pour des personnes. Mais puis en même temps qu'on fait une gestion serrée, en même temps, en parallèle, on travaille un stock pour être capable de répondre à la demande puis peut-être pas avoir cette gestion serrée-là. Mais les recommandations, là, viennent pas de nous qui décidons à un moment donné, là. Moi, là, je vais faire, vu que j'ai tant de doses, vu que j'ai tant de masques, je vais choisir ce monde-là. C'est véritablement en fonction d'une analyse de risque qui est faite par l'Institut, qui nous transmet l'information, puis nous, on s'occupe. Les équipes, l'équipe de Mme Mécan et ceux qui travaillent là-dessus, à s'organiser pour avoir le matériel.
Vous avez dit hier qu'il n'y aurait pas de mise à pied dans le secteur public chez les employés de l'État, mais vous avez déjà évoqué un scénario qui irait, par exemple, jusqu'à la fermeture des écoles jusqu'en décembre. Est-ce que il n'y aurait pas de mise à pied? C'est sûr qu'il n'y aurait pas de mise à pied dans le secteur public, même si le scénario pessimiste, c'est ça qui arrive.
Il n'y a aucune... Actuellement, il n'y a aucun scénario là, de mise à pied ou de ne pas payer des employés qui travaillent pour le gouvernement du Québec, incluant les réseaux.
Alain Laforêt, TVA.
Aucun scénario comme ça.
Bonjour.
Bonjour.
Docteur Arruda, est-ce que c'est normal, parce que vous dites qu'il y a de l'équipement et qu'on doit s'en servir, là, je reviens encore là-dessus, je sais que c'est un peu une marotte depuis plusieurs jours, là. Est-ce que c'est normal que des médecins fabriquent des visières avec des acétates et des bouts de fil actuellement dans des hôpitaux de Montréal?
Ma réponse, c'est non. Okay? Si ça a été fait, je veux juste savoir s'ils l'ont fait parce qu'ils avaient besoin de l'avoir pour le patient qui était là. Là. Puis, vous savez, là, moi, là, je suis enfermé ici, là, mais s'il y a des situations de cette nature-là, il faut nous les dire. Il faut que ces médecins-là s'adressent à la bonne place, notamment à leur CIUS, pour être capable d'avoir le matériel comme tel. Est-ce qu'il est arrivé à un endroit que quelqu'un n'a pas fait les actes? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas normal que les médecins prennent des acétates pour faire des visières. À ma connaissance, on n'en est pas là. Mais là, si c'est arrivé, j'invite ces médecins-là à contacter leur PDG dans leur CIUS comme tel, puis on va voir à corriger la situation, à retransférer des visières d'une place à une autre.
Vous êtes en train de mettre en place un système de tests à travers tout le Québec. Est-ce qu'on est à deux vitesses actuellement? Parce que dans certaines régions, on a des résultats dans 24-48 heures. Dans d'autres régions, ça prend jusqu'à 10 jours pour obtenir des résultats.
Bien, on n'est pas en train de le mettre à deux vitesses. Notre objectif étant toujours d'aller le plus rapidement possible. Écoutez, c'est peut-être normal que quelqu'un qui est dans une région comme, par exemple, la Gaspésie, a fait un test, puis peut-être qu'il l'a eu avant parce qu'il n'y avait pas un backlog important, tout dépendamment où est le test régional. Parce que là, maintenant, il faut comprendre aussi que, bien, c'est sûr que dans la région de Montréal, il y a beaucoup, 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 beaucoup de cas. D'ailleurs, il faut falloir qu'on active certaines choses. Ça veut dire aussi mobiliser plein de monde pour faire des enquêtes. Parce que on voit là, à Montréal, juste par rapport à hier, il y a eu 179 nouveaux cas qui doivent être inquiétés. Ça ne veut pas dire tout du monde en train de mourir, etc., mais il faut enquêter pour savoir qui... Il faut faire ce travail-là. Puis c'est là que je l'ai dit aussi, on commence. Les deux vitesses, c'est pas à deux vitesses, mais ça se peut que dans certains territoires, on va tester certaines personnes qu'on ne testera pas en Gaspésie parce que c'est pas pertinent. Mais soyez assurés qu'actuellement, là, il y a peut-être des backlogs. L'objectif principal, c'est de tester. Et c'est sûr qu'on veut essayer d'avoir le résultat le plus rapidement possible. Moi, on me dit qu'on visait entre 24 et 48 heures, là, mais il y a peut-être un backlog. On va vérifier ça au jour le jour. C'est ce qu'on vise. Mais en même temps, si vous me permettez, on préfère tester la personne en temps opportun, l'isoler, même si elle aura à attendre, disons, 3-4 jours, que de ne pas la tester. Fait qu'on, bon, j'arrête ici parce que je pense que je parle trop. Trop long, des réponses trop longues pour une question qui est répondue de façon très courte.
Alors, c'était Horacio Arruda, donc, qui fait acte de contrition pour ses réponses, des fois, trop longues, trouve-t-il. Mais bon, on le trouve bon, fait qu'on s'en plaint pas trop. Donc, le point de presse qui continue. On va continuer, évidemment, à l'écouter. C'est Julie-Christine qui va s'en charger. Si jamais il y a quelque chose de gros qui sort, elle reviendra en studio pour nous en parler. Un grand appel du premier ministre François Legault, de son ministre Jean Boulet. Un appel aux bénévoles. Si vous pouvez... Si vous êtes en bonne santé, vous avez du temps, vous n'avez pas de symptômes, vous avez moins de 70 ans, on a besoin de bénévoles, notamment dans les banques alimentaires. Vous allez sur jebénévole.ca pour donner votre nom dans la région où vous habitez. Il y aura, si j'ai bien compris, là, ça va se diviser par région, puis à l'intérieur de chaque région, vous aurez une série d'options. Jebénévole.ca. Actuellement, le site, je pense que les gens répondent massivement à l'appel du premier ministre. Le site est surchargé, c'est difficile d'y avoir accès, mais ça devrait s'arranger dans les prochaines heures. On va s'arrêter. Parce qu'au retour, je veux vous parler un petit peu d'une nouvelle que notre journaliste Sabrina Rivet va venir vous raconter. Elle en a parlé dans l'émission de Paul ce matin. La géolocalisation, savoir exactement où sont les gens pour déterminer notamment s'ils respectent les consignes. Hein, ça pourrait servir à ça. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous trouvez que c'est une mesure de contrôle social, mettons? Qui est un petit peu exagéré ou vous êtes prête à aller là, utiliser la géolocalisation pour lutter contre le virus? Après la pause.